Voilà, j'aimerais tout d'abord vous saluer, à chacun et chacune que je n'ai pas salué personnellement. Aussi vous saluer de la part de l'église de Belfort. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on fait partie du même corps. Hein, et on avance ensemble avec le même Seigneur, avec ce Dieu qui est extraordinaire pour nos vies, qui est patient dans nos vies. Alors moi ce matin, je me suis régalé avec toutes ces forêts que j'ai traversées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être vous ne remarquez plus parce que vous êtes dedans, mais la couleur des feuilles, des arbres, c'est vraiment splendide. Et là, on peut voir la bonté de Dieu aussi, qui n'a pas fait les arbres tous avec la même couleur, tous avec les mêmes feuilles, mais il nous a donné une panoplie de couleurs qui est un régal pour nos yeux. Alors, c'est important, je trouve, de pouvoir se réjouir de ce qui est autour de nous. Hein ? C'est vrai, on peut être préoccupé par un tas de choses et oublier les clins d'œil que le Seigneur nous fait tout autour de nous, dans cette nature extraordinaire. Alors ce matin, j'aimerais partager un texte dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, chapitre 1, et les versets 1 à 14, qu'on va lire. Donc Malachie 1, 1 à 14. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel ? Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Et Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement ? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifice. Et sacrifie, pardon, au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voilà ce texte. Je ne sais pas ce que vous pensez lorsque vous lisez ce texte. En tout cas, moi, c'est un texte qui me parle, parce que, à quelque part, il y a encore beaucoup de problèmes dans ce dernier prophète Malachi. En tout cas, Dieu soulève les gros problèmes du peuple. Malachi veut dire messager. Messager. 1 Corinthiens 10, verset 6 nous dit « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Tout ce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Jamais une parole de la Bible sera une parole sans conséquence. C'est important de réaliser cela. Le livre de Malachie est particulièrement sérieux parce qu'il manque 432 ans et puis Jésus-Christ sera là. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce texte aujourd'hui, parce qu'on arrive bientôt dans la période de l'Avent, et cette période de l'Avent, avant la venue de Jésus, eh bien, elle va préparer les choses. Dieu donne un dernier appel à la conscience et au cœur de son peuple. Et tout de suite, dès les premiers mots du passage qu'on a lu, Dieu met en évidence une chose qui est tellement importante, c'est l'amour éternel que Dieu a pour sa créature. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Il y a une autre version qui dit « Donne-nous la preuve que tu nous as aimés. » C'est terrible. « Je vous ai aimé, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Du côté d'Israël, de ce peuple, je me suis relevé, c'est les trois « i », ingratitude, inconscience et insolence du peuple. Paul dira dans Romains 10, verset 1, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Et le prophète Ésaïe, au chapitre 1, verset 2, il dit « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Se sont révoltés contre moi. Il n'y a pas de plus grande souffrance pour un père que de voir ses enfants se rebeller, faire ce qui lui déplaît. Pourtant, Dieu affirme qu'il aime son peuple. Il l'aime. Comme des preuves d'amour nous sont données durant toute la Bible et aussi dans le Nouveau Testament. Regardez Pierre, par exemple, qui renie Jésus. Et c'est lui que Jésus va choisir pour s'occuper de ses brebis. Je ne sais pas si vous étiez à la place de Jésus, si vous auriez confié à Pierre le rôle de s'occuper de ses brebis. Nous, quand il y a quelque chose qui s'est passé, on a vite fait de mettre la personne de côté et de dire « Moi, je ne veux plus rien savoir de toi. » On est comme ça. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne licencie pas. Il continue avec nos vies, avec les dons, on l'a chanté tout à l'heure, avec les dons qu'il nous a donnés. Il nous utilise parce qu'il veut, dans sa grâce, nous montrer qu'il peut travailler avec nous, même avec toutes les maladresses, avec tout le péché qui est encore dans nos vies, dont nous devons confesser. Jésus veut se servir de nous. Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église. Et c'est lui que Dieu choisit, non pas pour persécuter, mais pour implanter des églises. Ça, c'est l'humour de Dieu. Implanter des églises. Et il y a bien d'autres exemples que Dieu va utiliser, où Dieu va transformer des hommes, des femmes pour se servir d'eux et glorifier son nom. Malachi, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et on pourrait se dire une chose. à la fin de l'Ancien Testament, on pourrait dire, ah ben le peuple, j'espère qu'il a compris ce que Dieu a fait pour lui. Quand on regarde tout ce qu'il a fait pour lui, hein, dans tout l'Ancien Testament, on pourrait dire, j'espère qu'il a compris, mais en réalité, il n'a rien compris. Je vous ai aimé, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Où est la preuve de ton amour? Où est la preuve de ton amour? Lorsqu'on regarde comment Dieu a dirigé le peuple d'Israël dans le désert et dans la conquête du pays promis, mais vous pouvez écrire des pages complètes sur les bénédictions que Dieu a accordées à ce peuple. C'est extraordinaire. La manne dans le désert, tous les jours, ils avaient la nourriture à portée de main. L'eau, le rocher qui a été frappé pour que l'eau sorte, les vêtements et les souliers qui ne se sont pas usés sur eux pendant 40 ans. Ça serait bien d'avoir le nom du magasin, hein, parce que ça nous éviterait de changer de chaussures et de vêtements assez souvent. Dieu est bon. En quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? Est-ce que Dieu n'a pas aimé son peuple durant tout ce temps où il a pris soin de lui? L'amour, ce n'est pas de laisser faire tout ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Dieu, la première chose, Dieu a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte. En se rappelant que Dieu ne leur fait pas prendre le chemin le plus court lorsqu'ils sortent d'Égypte. Il leur fait faire un détour. Nous, dans nos vies, on aime prendre le chemin direct. Et parfois, Dieu nous fait prendre un détour énorme. Pourquoi ce détour? Pourquoi ce détour? Ce détour, il a permis l'anéantissement de Pharaon et de son armée dans la mer Rouge. On ne réalise pas combien dans nos vies les épreuves, parce que le peuple était effrayé, il pensait qu'il allait mourir, il était bloqué devant la mer Rouge et de l'autre côté l'armée de Pharaon arrivait. Et il le dit, on est fichu. Et même Pharaon disait, c'est terminé pour eux, le désert les enferme. Et c'est là que Dieu est intervenu. Parce que Dieu qui a sorti son peuple de l'esclavage, est-ce que vous pensez qu'il va le laisser mourir dans le désert? Bien sûr que non. Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui nous a fait sortir de l'esclavage, entre guillemets, de l'Égypte, de nos péchés, du monde, est-ce qu'il va nous laisser mourir dans le désert? Non, il va s'occuper de nous, mais parfois, il va nous faire faire des détours. Parce qu'il y a une victoire qui doit être là dans nos vies, et ça passe parfois par des moments difficiles dans nos vies. L'épreuve, elle va enraciner nos racines dans la parole de Dieu et notre foi en Jésus. Dieu veut faire la même chose pour nous. Il veut que nous réalisions dans nos vies que nous avons été libérés de notre ennemi qui voudrait nous paralyser dans nos vies. Combien se laissent paralyser dans les vies chrétiennes? On a l'impression qu'on ne connaît pas le Dieu de l'univers. Parce qu'on s'arrête toujours tout à nouveau au terre à terre des choses. Mais Dieu est là. Il était là avec le peuple. Il l'a nourri avec la manne du ciel. Nous aussi, nous avons besoin de la parole de Dieu comme nourriture. Le vrai pain, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que je lis la parole? Est-ce que je la médite? Est-ce que je prends du temps? Ça, je le dis presque dans tous mes messages. Mais parce que c'est la base. C'est la base. Et on est tellement oublieux qu'il faut le répéter. Vous savez, à l'école, c'est pédagogique, hein. Il faut répéter les choses pour que ça rentre. Et Dieu nous les répète. Il a sa parole, mais il nous rappelle les choses. Troisième chose, il a dirigé son peuple dans le désert. Nous avons besoin de la direction de Dieu dans nos vies, et il a fait habiter en nous le Saint-Esprit. Il nous conduit, il nous dirige. C'est extraordinaire. Partout où vous allez, vous vous déplacez avec le Dieu trois fois saint en vous, par le Saint-Esprit. Est-ce que nous réalisons cela un tout petit peu, ça dans nos vies? C'est fantastique. Fantastique. Quatrième chose, les vêtements et les souliers ne s'usaient pas sur eux. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu veut s'occuper des choses les plus banales de nos vies. Dieu ne s'occupe pas que de notre âme et de notre esprit, il s'occupe de nous entièrement. Nous avons un corps. Et il vient aussi pourvoir à tous nos besoins. 1 Jean 4, versets 9 à 12, on ne va pas le lire, mais il est dit dans ce passage en partie, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer. Ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est qu'il est très pratique. J'aime bien la parole de Dieu. Il dit, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime son frère, que Dieu qu'il ne voit pas, pardon. C'est très pratique. Est-ce que nous aimons nos frères et sœurs? Fait partie du même corps. Il veut que nous reproduisions cet amour autour de nous. Dieu veut que son amour soit vu au travers de nos vies. C'est pour ça qu'il nous rachète et qu'il fait de nous un être nouveau. Pour que les autres voient que nous lui appartenons. C'est impossible de vivre par nos forces cet amour-là. Et Romains 5, 5 nous dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par qui ? Par le Saint-Esprit. » C'est pour ça qu'il est venu habiter en nous. Parce qu'on n'a pas la force de vivre la vie chrétienne. J'ai besoin de m'appuyer sur lui tous les jours. Aimez-vous les uns les autres. C'est vite dit, mais est-ce une réalité dans ma vie? Aimer son prochain comme soi-même. Vous avez déjà réfléchi à cette petite phrase? Aimez votre prochain comme vous-même. Est-ce que vous vous aimez vous-même d'abord? Parce que c'est difficile d'aimer l'autre comme soi-même si on ne s'aime pas soi-même. On trouve tout le temps des défauts hein, dans nos vies. Même physiquement, je veux dire, si on se regarde dans la glace, parfois on se dit, ah lui, j'ai un trop gros nez, j'ai une oreille plus haute que l'autre, enfin bref, on trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu déclare, tu es une créature extraordinaire. Alors pourquoi douter de ce que Dieu nous dit? On s'arrête parfois dans des choses tellement secondaires. Après tout ce que Dieu a fait pour son peuple durant des siècles, la réponse de ce peuple, à quelque part, elle nous fait mal. En quoi nous as-tu aimés? Est-ce que ce matin, il y aurait quelqu'un qui doute de l'amour de Dieu pour lui ou pour elle? Est-ce que quelqu'un douterait de cet amour pour lui? Romains 5, verset 8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu, il l'a prouvé à travers Jésus. Le verset 10 de notre texte, du texte de Romains, oui, dit que nous étions ses ennemis. Voilà, et je vous disais tout à l'heure que nous, quand quelqu'un nous fait une grâce, on a vite fait de le mettre de côté. Mais Dieu a continué à aimer malgré que nous étions ses ennemis. C'est fort, hein, ça, dans nos vies. Hein. Jean 17, 20 à 26, vous pourrez lire le texte chez vous. Dieu nous aime comme il aime Jésus. C'est ce qu'il est dit dans ce texte de Jean 17, 20 à 26. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Vous imaginez de quel amour nous sommes aimés ce matin? Un amour extraordinaire. Je ne peux même pas l'imaginer, cet amour. Jean 15, verset 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donner sa vie pour ses amis. Si quelqu'un doutait de l'amour de Dieu pour lui ce matin, regarde à la croix où Jésus a pris ta place. Dans le livre du Lévitique, je ne vais pas le lire parce que je ne veux pas rallonger les versets 17 à 25, dans ce texte, il nous est dit, à propos des sacrifices, que Dieu avait le droit au meilleur. Dieu a le droit aux meilleurs animaux. Qu'est-ce qui se passait dans notre texte qu'on a lu aujourd'hui? C'était tout le contraire. Les animaux offerts en sacrifice devaient être sans défaut. Sans défaut. Et Dieu ne regarde pas à la grosseur du sacrifice. On le voit dans le Lévitique. Il regarde à la qualité du sacrifice. Il regarde au cœur, aux motivations, aux intentions qui sont là dans nos vies pour l'aimer. Il connaît nos défaillances, hein, comme le chant le dit. Connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, c'est vrai, mais riche en son amour. Au verset 8 du texte d'aujourd'hui, il est dit « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. » Le peuple offrait non pas le meilleur à l'Éternel, mais ce qu'il ne voulait pas pour eux. Comme pour dire finalement, pour Dieu, ça suffit. Je garde le meilleur pour moi. Et moi ce matin, quelle est la disposition de mon cœur face à Dieu? Est-ce que je donne le meilleur pour Dieu? Ou est-ce que je calcule toujours dans ma vie? Et on est des calculateurs. On est comme ça. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on lui donne le meilleur. Parce que ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en donnant le meilleur, il nous redonne au double de ce qu'on lui a donné. Est-ce que j'ai cette confiance qu'en donnant à Dieu le meilleur, il va me donner au-delà de ce que j'espère? Ou est-ce que je pense, non, je garde le meilleur pour moi parce que je ne sais pas ce qui va arriver après, hein? Ésaïe 1, versets 11 à 18, je lis un petit peu dans la suite d'un verset que je vous ai lu tout à l'heure. J'aime bien ce chapitre 1 d'Ésaïe. Il dit « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous avez vu ce texte ? Ce sont des gens qui viennent, qui se réunissent ensemble. Ce sont des gens qui apportent des offrandes. Ce sont des gens qui prient. Réalisez, ça peut être nous ce matin. Ils font exactement ce que nous on fait. Simplement, Dieu voit dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais quand vous venez vous prosterner devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Ce sont des gens religieux. L'homme est un être religieux. Et c'est bien ce que Jésus a dénoncé durant sa vie sur terre. Lisez les évangiles. C'est aux religieux qu'il a reproché le plus de choses. Le religieux. Parce que le religieux, il veut montrer une façade. Nous aussi, parfois, on peut essayer de montrer une façade. Mais Dieu voit dans nos cœurs. Et le plus important, c'est de vivre honnêtement avec le Seigneur. Et il ne dit pas qu'on ne va plus pécher, mais il nous dit de marcher dans la lumière. L'épître de Jean dit, celui qui marche dans la lumière, le sang de Christ le purifie de tout péché. Ce n'est pas en opposition. Je peux marcher dans la lumière et je le sais, encore aller de travers à certains moments. J'ai besoin du sang de Christ, mais je reste dans la présence de l'agneau qui me purifie à chaque fois que j'ai fait un écart dans ma vie. Dieu me sait, Dieu me connaît, Dieu sait ce que je vis, pourvu que je n'essaye pas de lui cacher les choses. On peut faire bien des choses pour Dieu, et être en horreur à Dieu. Ce n'est pas un critère de venir au culte, d'être aux études bibliques, aux réunions de prière, si tout cela n'est pas motivé par l'amour pour Jésus. L'amour pour Jésus. Si ce n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Relisez 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 13? Vous vous souvenez de la liste? Je peux me faire brûler, sacrifier. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Si c'est encore pour me faire voir par les autres, ça ne sert à rien. Dieu voit ma vie ce matin. Il voit comment elle est peut-être en ruine ou elle va peut-être tout à fait bien et c'est super. Mais Dieu nous connaît. Et il veut venir à mon aide si j'en ai besoin. Ésaïe 29, verset 13 dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est ça l'important. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez ? On peut tomber dans une tradition, même dans l'Église évangélique. On peut tomber dans une tradition. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit verser l'amour de Dieu dans mon cœur? Sinon, je ne serai pas capable d'aimer comme lui veut que j'aime. Dans notre texte, les offrandes sont entachées par des vies qui ne s'alignent pas sur Dieu. 2 Timothée 2,19 nous dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Quand je prononce le nom du Seigneur, je dois être clair dans ma vie. Parce que rien que le fait de dire Seigneur, ça veut dire que je soumets ma vie à ce Seigneur. Et Jésus disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Ça ne sert à rien de dire Seigneur si je ne fais pas, si je ne fais pas ce qu'il me demande. Hein ? Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande, dit Jean 15. Quelle est la réalité de ma communion avec Dieu ? Est-ce que je m'éloigne de l'iniquité ou est-ce qu'elle fait partie de ma vie chrétienne ? Et ça, c'est terrible, hein ? Parce que tôt ou tard, le péché va nous piéger. Si je vis dans le compromis, tôt ou tard, je vais être coincé par le péché. Qu'est-ce qui découle d'une vie déréglée ? C'est simple, le dérèglement. Le dérèglement. Dans Malachie, le vrai problème, c'est que le peuple ne donne pas à Dieu ce qu'il y a de meilleur, mais ce qui reste. Jésus nous regarde ce matin, et en tout premier mois, parce qu'en plus, je vous annonce la parole, et je suis deux fois plus responsable que vous. Il regarde comme il regardait, dans Marc 12, versets 41-44, ceux qui donnaient leurs offrandes. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quelle leçon pour nous ce matin ! Quelle leçon pour nous ! Cette pauvre veuve, elle était capable de donner tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi ? Parce qu'elle était sûre que Dieu allait pourvoir pour la suite. Est-ce que je donne le meilleur dans ma vie en sachant que Dieu va me donner le meilleur pour la suite ? Je me prive du meilleur souvent parce que je ne donne pas à Dieu ce que je devrais lui donner. Et là, je ne parle pas simplement de l'argent, parce que là, il est question d'argent. Pas du tout. Il n'y a pas que l'argent. Notre cœur, et nous devons le dire, est souvent attaché au meilleur. Et je dois le dire honnêtement ce matin. Quand on aime, ce n'est pas un problème de donner. C'est une question d'amour. Et là, je ne parle pas seulement d'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de l'offrande de notre corps comme d'un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, nous dit Romains 12, versets 1 et 2. Le véritable amour, c'est se donner soi-même pour les autres. C'est ça le véritable amour. Et aujourd'hui, dans notre monde, l'amour, c'est prendre chez l'autre ce qui m'intéresse. Et après, je jette. C'est ça, aujourd'hui, l'amour. J'ai posé la question. J'avais une réunion avec un groupe de jeunes sur l'amour. Et je leur ai demandé de me donner la définition de l'amour. On prend chez l'autre ce qui m'intéresse. Et après, je jette. Et Jésus, il a fait tout le contraire. Il s'est donné entièrement pour nous. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Dieu regarde à la disposition de mon cœur pour le servir. On ne peut pas tromper Dieu. Qu'avons-nous à offrir à Dieu ce matin ? Dieu veut un cœur entier pour lui. Quel temps est-ce que je passe dans sa présence ? A-t-il le meilleur de mon temps ? Ou doit-il se contenter des dernières minutes de la journée ? Soyons vrais avec lui. Si je ne me discipline pas dans ma vie chrétienne, je vais lui donner les dernières minutes de ma journée. Nos programmes sont souvent bien remplis. Est-ce que Dieu peut avoir le meilleur de mon temps dans mon programme? Est-ce qu'il fait partie de mon programme d'abord? Est-ce qu'il fait partie de mon programme? Télévision ou réunion? Loisirs ou communion fraternelle? Et là, il n'est pas question d'interdit. Je peux regarder la télé, je peux faire des loisirs, je peux faire tout, pourvu que Dieu soit mis en priorité dans ma vie. Je ne suis pas légaliste en disant ça, mais souvent, et je dois le dire, la télé, les loisirs et tout le reste prennent la place sur Dieu. Quand il y a une réunion de prière, est-ce que je viens à la réunion de prière ou est-ce que je vais rester devant la télé parce qu'il y a telle et telle chose? C'est un choix, c'est une priorité à placer, mais c'est important de le dire et de pouvoir le vivre aussi. Comment est-ce que je vis durant la semaine? Quand as-tu parlé de Jésus à quelqu'un pour la dernière fois? Quand est-ce que j'ai dit à quelqu'un, témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie? Comprenez bien, ce n'est pas du légalisme, c'est une question d'amour pour Dieu. Le verset 7 nous dit, de notre texte de Malachie, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ?» Et le verset 12 nous dit, « C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. » À quoi ça sert une table? À manger. À manger. Le psaume 23, verset 5, vous connaissez certainement le psaume 23 par cœur, il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de qui ? De mes adversaires, de mes ennemis. » Est-ce que la nourriture que nous donne le Seigneur est méprisable? Est-ce qu'elle est méprisable, cette parole de Dieu? Est-elle encore notre référence dans nos vies pour nos décisions et nos projets? Dieu nous a donné sa parole comme une protection pour nos vies. Il place devant moi une table en face de mes adversaires. C'est une protection pour nos vies, cette table, cette nourriture que Dieu nous donne. Elle est une arme contre l'ennemi de nos âmes. Et si l'ennemi arrive à me faire croire que la table de l'Éternel est méprisable, nous sommes en très grand danger. En très grand danger. La suite logique de cette situation, nous la trouvons au verset 8, hein, où il est dit, c'est déjà un verset qu'on a lu, hein. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Et ainsi de suite. La suite logique, c'est que je vais pouvoir offrir à Dieu que ce qui reste, et non plus le meilleur. Un cœur vide peut-être, plein de choses dans nos cœurs qui ressemblent à ces bêtes aveugles, infirmes, boiteuses. Est-ce que c'est cela que nous voulons offrir à Dieu? Non. Nous voulons offrir nos cœurs, nos vies, comme une offrande vivante. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures capables de le louer et de l'adorer. Il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous transformer à l'image de Christ pour qu'il soit vu autour de nous. Alors, je passe à la conclusion. Dieu veut la meilleure place dans nos vies. Est-ce que tu le crois? La meilleure place, c'est laquelle? C'est la première, hein? Pas la deuxième. La deuxième, la troisième et la centième, c'est pareil. C'est la première qui veut. C'est la première. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur en sacrifice pour nous, Jésus, celui en qui Dieu a mis toute son affection. Lui n'a pas calculé. Il a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous libérer du péché et pour nous donner une vie qui vaut la peine d'être vécue. Son offrande pour nous était parfaite, sans défaut. Sans défaut. À cause de ce sang versé, mes péchés sont effacés et je suis appelé fils ou fille du Père ce matin. Réalise ça. 1 Jean 3:1, voyez de quel amour le Père vous a aimé ou vous a témoigné pour que vous soyez appelés ses enfants. Et nous le sommes, insiste Jean. Et nous le sommes. Il ne faut pas oublier qui nous sommes. Enfants de Dieu, enfants du Père, enfants du Roi des Rois. Il m'a associé à sa vie. Comment vais-je répondre à cet amour ? Au verset 2, je vous rappelle ce verset. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et moi je dis, je transforme un peu le verset, « Je vous aime toujours. » Je vous aime toujours. Ce matin, pour chacun, chacune d'entre nous. Et vous, qu'allez-vous lui répondre ? En quoi nous as-tu aimé ? Est-ce que nous allons être ingrat, insolent avec lui? Ou est-ce que nous allons lui dire, « Mais Seigneur, tu as tout donné pour moi. Comment ne pas tout te donner alors que tu as tout fait pour me rendre libre ?» Après tout cela, Dieu aurait pu mettre un terme à sa patience. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu aurait pu dire, « Bon, maintenant j'en ai marre de vous. Je trace un trait, je raye tout. » Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir dans la personne de son propre fils pour nous aimer encore davantage et régler la question du problème. Hein ? Je termine avec ce verset du chapitre 3 de Malachie. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est Jésus. C'est Jésus qui va venir 430 ans plus tard pour nous aimer et donner sa vie en rançon. Prions ensemble. Seigneur, quelle grâce de te connaître. Je réalise que je ne devrais pas être devant toi ce matin parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que je mérite la séparation éternelle d'avec toi. Mais ce verset extraordinaire nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as aimé plus que tout. Tu as envoyé ton propre Fils pour m'aimer et me libérer du péché. Seigneur, je veux juste te dire ce matin que je t'aime avec mes frères et sœurs ici, que nous t'aimons et que nous voulons continuer à te faire confiance dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à te mettre à la première place dans nos vies, à te donner le meilleur de nos vies. La vie est courte et Seigneur, nous voulons que cette vie puisse te glorifier pendant ce pèlerinage terrestre. Aide-nous dans ta grâce à laisser tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, à abandonner le péché et à te suivre, toi, le bon berger. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es le seul qui nous a aimés à ce point. Nous avons une telle valeur à tes yeux. Nous le voyons lorsqu'à la croix de Golgotha, tu donnes ta vie pour nous racheter de nos fautes. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons pu passer avec toi. Merci pour la suite aussi de ce culte. Je te demande de nous faire du bien encore. Amen.